Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Ambiance très lourde dans la grande salle d'audience au moment où le président de la cour d'assises spéciale va citer tous les noms des personnes assassinées lors des attaques de Paris et de Saint-Denis. Il commence d'abord par les abords du Stade de France, viennent ensuite les terrasses et enfin le Bataclan. Émotion collective.
Le procès des auteurs et complices présumés des attentats du 13 novembre a démarré depuis quelques jours maintenant. Relayé ici par France 24, sous sécurité maximale. La cour d'assises spéciale de Paris va juger 20 personnes pour ces actes qui ont endeuillé toute une nation. Un procès pour l'histoire, pour se souvenir à défaut de pouvoir comprendre l'incompréhensible. Un procès aussi pour entendre la douleur des survivants et la peine des parents des victimes. 6 ans après, certains sont encore meurtris dans leur chair et leur cœur, d'autres n'arrivent pas à faire le deuil. Personne n'est préparé à vivre un tel événement. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Dans cet épisode un peu particulier de La Story, on va s'intéresser à travers ce procès non pas aux accusés, à ceux qui se retrouvent aujourd'hui face à la justice des hommes, mais à ceux qui restent, survivants ou proches des victimes. Pour cette émission, où l'on parlera peu d'économie, je reçois 2 invités, une psychologue qui accompagne les parties civiles au procès du 13 novembre et un auteur de romans policiers, écrivain à mi-temps et policier à plein temps. Bonjour Carole Damiani.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, directrice de Paris Aide aux Victimes. Alors d'abord, quel est le rôle de cette association Paris Aide aux Victimes ?
Alors notre objet habituel est donc l'aide et le soutien des victimes d'infractions pénales et agréées par le ministère de la Justice. Et là, en l'occurrence, nous avons pour mission d'assister les victimes, les parties civiles au cours du procès.
Le procès, c'est un moment attendu hein, par les survivants, par les familles des victimes, avec le risque de voir des plaies se rouvrir ?
Alors effectivement, on sait qu'un procès, ça réactive le traumatisme chez les rescapés, ça réactive le deuil chez les parents et les proches. Ceci dit, la plupart de ces parties civiles nous disent que c'est une étape douloureuse, certes, mais nécessaire.
Mais c'est vraiment important pour pouvoir faire son deuil ?
Alors, c'est pas ça qui va les aider à faire leur deuil ou à guérir le traumatisme, mais c'est une étape, en tout cas, qui peut apaiser un tant soit peu. La guérison, c'est plutôt de soi à soi, c'est dans l'intime. Là, on est sur la scène publique, ils en attendent des réponses, ils attendent d'approcher au plus près d'une certaine vérité judiciaire, ils attendent qu'on les entende, qu'on les reconnaisse, et ça fait partie de leur parcours.
Qu'on les reconnaisse notamment en tant que victimes ?
Qu'on les reconnaisse comme victimes, et ce que certaines victimes disent, c'est « je veux qu'ils se rendent compte des dégâts que ça peut faire ». C'est pas simplement psychologique, mais ça a des incidences professionnelles, ça a des incidences sur les enfants, sur la famille, sur les proches, et ils veulent que les accusés prennent conscience de cela. Ils ont aussi ce besoin d'être reconnus dans leur préjudice, dans l'ensemble de tout ce qu'ils ont vécu.
Vous êtes sur place, il y a une suspension d'audience, hein, on s'était donné rendez-vous téléphonique, c'est pour ça que le son est un peu de qualité moyenne, mais voir dans le box l'un des membres du commando Salah Abdeslam, hein, le dernier qui est encore vivant, l'entendre, même s'il ne semble montrer aucun remords, c'est aussi quelque chose d'important pour les parties civiles ?
Alors pour les parties civiles, on les avait préparées au fait que certains accusés ne voudraient pas parler ou seraient dans la provocation. Et là, c'est ce qui se passe effectivement. Ce qu'on essaye, lorsqu'on échange avec les parties civiles, c'est qu'elles se disent « mais ils parlent, ils provoquent, mais c'est pas très intéressant en fait ». Il y a eu des premiers mouvements d'indignation, de colère. Mais maintenant, ça les atteint moins. Et je pense que c'est important pour eux qu'ils se sentent moins atteints par ce que peuvent dire les accusés lorsqu'ils disent « les victimes, c'est nous ».
Comment est-ce qu'on les accompagne justement dans ces moments ? Ce que vous faites, hein, vous, depuis 5 ans déjà ?
Alors, on est au plus près d'eux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du soutien psychologique classique, on le fait par ailleurs, mais ce n'est pas le lieu ici dans un procès. Donc, on va être auprès d'eux, on va nouer des relations de confiance, on va être un fil rouge pour eux en étant là tous les jours, de façon à ce qu'ils nous fassent confiance et que quand ça va pas, c'est vers nous, naturellement, qu'ils vont se tourner pour exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Là, il y a des victimes, par exemple, qui étaient très déconcertées, puis qui étaient fatiguées par la longueur des débats. C'est très formaliste. Et donc, elles ont eu besoin de venir avec nous, qu'on puisse les extraire, qu'on puisse aller avec eux échanger, même si ce sont pour dire quelque chose de banal. Mais c'est aussi parfois pour dire combien ils attendent de ce procès et quelle grande est leur souffrance aujourd'hui.
Le cinéma américain, les séries américaines évoquent souvent maintenant le stress post-traumatique des soldats en temps de guerre. Les survivants des attentats à Paris, Nice ou Bruxelles sont aussi soumis à ce stress ?
Bien entendu, le traumatisme psychique, on va le retrouver chez un très grand nombre des rescapés. Maintenant, au bout de 5-6 ans, beaucoup ont suivi des thérapies, beaucoup ont été aidés. Donc, on a eu une sédation des symptômes, un abrasement. Ceci dit, le procès réactive. On sait qu'il va y avoir des images, des vidéos, des sons. Ça peut les faire replonger, ça peut refaire flamber le traumatisme.
Vous parlez de traumatisme psychique. En préparant cette émission, je suis tombé sur une définition de François Lebigot, médecin militaire et psychiatre. Il dit « Le traumatisme psychique résulte d'une rencontre avec le réel de la mort. Cette rencontre, c'est un choc, s'en remettre. C'est un long processus pour la victime, alors que pour la famille, les proches, eux, eh bien, ils ne sont pas dans le même temps long. »
Tout à fait, vous avez trouvé vraiment la bonne citation. C'est vrai que ça ne s'apaise pas comme ça. Il faut un temps long parce qu'effectivement, il y a des symptômes. Le fait de repenser sans cesse à la même scène, de ne plus vouloir aller dans des lieux fermés, d'être extrêmement angoissé, d'être hyper vigilant. C'est surtout au début, ça semble s'apaiser. Et parfois, justement, les familles ont des rejets en disant « Mais t'y es encore, pourquoi tu, ça devrait être fini ?» Et donc, il y a parfois des rescapés qui vont masquer ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et n'oublions pas, et François Lebigot le dit effectivement bien, c'est pas simplement des symptômes, le traumatisme psychique, c'est aussi un vécu de culpabilité, de honte, de colère. Et c'est tout ça aussi qui est utile d'échanger avec les psychologues.
Et la honte d'être encore en vie ?
La honte d'être en vie, la honte à ce moment-là, lorsqu'il s'est passé ces faits de ne pas avoir eu le courage, disent-ils, bien entendu, d'aider ceux qui étaient près d'eux. La honte aussi, parfois, d'avoir préféré que ce soit l'autre qui soit mort plutôt que soi-même. Et pour nous, c'est important, en tant que psychologue, non pas de leur dire « mais non, vous n'êtes pas coupable, vous n'avez pas à avoir honte », parce que ça veut dire « je ne veux pas entendre et rester tout seul avec ça ». C'est plutôt de les aider à comprendre qu'est-ce qui leur fait honte, où elle est leur culpabilité psychique, de façon à les aider à le dépasser et à le surmonter.
Est-ce que la société en fait assez, aujourd'hui, dans l'accompagnement des victimes, dans l'aide à la gestion de ce stress ?
Il y a énormément de progrès, et justement avec François Lebigot, quand nous avons commencé à travailler ensemble en 95, à l'époque, oui, il n'y avait rien. Là, c'est clair qu'il y avait très, très peu de dispositifs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, que ce soit dans l'urgence. Là où il y a peut-être des progrès à faire, c'est sur la durée, justement, avec des soins qui durent longtemps. C'est encore perfectible, mais on s'est quand même beaucoup amélioré tout de même.
À ce jour, environ 90% des victimes des attentats du 13 novembre ont reçu une offre d'indemnisation. 65% l'ont acceptée hein, sur les 2580 personnes prises en charge pour l'instant par le fonds de garantie. Je dis pour l'instant parce que le fonds reçoit encore de nouvelles demandes. Cette indemnisation, c'est important aussi pour dépasser la douleur, pour aller de l'avant.
Être victime, ça coûte cher. Par exemple, il y en a qui ne peuvent plus exercer la même profession, qui sont obligés de faire une reconversion professionnelle. Il y en a qui ont eu des séquelles psychiques ou physiques qui l'ont empêché d'avoir telle ou telle activité, qui ont été obligés de changer de logement. Tout ça, ça coûte très cher. L'indemnisation, elle a une base réelle. Elle se base sur le préjudice qui a été vécu. Donc, c'est important pour eux. Ce n'est pas une somme qui serait symbolique ou comme ça. Et donc, pour eux, cette indemnisation, le reflet de ce qu'ils ont vécu.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?
Pour nous, ce qu'on attend du procès, c'est qu'on aide au mieux les victimes à comprendre, eux, quels sont leurs enjeux. Pour certaines victimes, c'est s'approcher au plus près d'une vérité. Ils ont étudié les dossiers, ils ont déjà une bonne connaissance de ce qui s'est passé, mais il y a des zones d'ombre, ils veulent les comprendre. Pour d'autres, l'enjeu est beaucoup plus psychologique. Pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir aider ceux-là à se poser les questions qui font qu'ils vont pouvoir avancer. Et donc, en fonction de chacun, on va être plutôt dans une recherche de vérité, pour d'autres, plutôt quelque chose de personnel. Donc, c'est à nous vraiment d'être au plus près de leurs besoins.
Il y a un peu moins d'un an, la Fondation de France, l'Orchestre de Chambre de Paris et le compositeur Béchara El Khoury ont rendu hommage aux victimes des attentats de novembre 2015 avec notamment cette symphonie numéro 31, Paris, de Mozart. Le concert était intitulé « Il fait novembre en mon âme », un joli titre qui renvoie au livre écrit par Christophe Maulmy, « La fosse aux âmes ». Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. L'histoire pourrait démarrer ainsi. Un soir comme les autres, Fabrice a rendez-vous au cinéma avec Juliette, sa compagne depuis 2 ans. Il est en retard et le temps est à l'orage dans le couple. On garde pour soi ce que l'on a sur le cœur, on attend le moment opportun et on entre dans le cinéma. Ensemble, ils s'installent devant le grand écran. Au milieu du film, la séance tourne au cauchemar. Des terroristes frappent aveuglément. Juliette meurt sous les balles, pas Fabrice. C'est l'histoire qu'a choisi de raconter Christophe Maulmy. Les amateurs de Polar des Échos commencent à connaître cet auteur. Je lui ai déjà consacré des chroniques dans la rubrique Rayon Polar des Échos Week-end, des polars qui montrent au plus près le travail des policiers. Christophe Maulmy est policier justement. C'est l'ancien chef de l'anti-gang. Le 13 novembre 2015, il était au Bataclan. On le ressent dans les premières lignes de son livre, à travers les odeurs. Il est amené à témoigner devant le jury lors du procès et ne peut donc pas évoquer son rôle ici, son éditeur m'a prévenu. Je reçois donc l'écrivain avant le policier, soumis à un devoir de réserve. Bonjour Christophe Maulmy.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de police, La fosse aux âmes est votre 4e roman, le moins policier de tous, on va y venir. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé de prendre la plume pour raconter des histoires?
J'ai d'abord écrit 3 romans policiers, parce que j'avais le désir d'écrire, écrire sur les enquêtes policières en particulier. Ils ont eu un bon accueil, mais là, cette fois-ci, je voulais écrire un vrai roman, me détacher d'une enquête policière stricto sensu et écrire autre chose. En l'occurrence, c'est un roman noir. Et voilà, je me suis relancé dans l'écriture de ce roman avec un fil directeur, c'est le thème de la résilience.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Consciemment, rien, mais inconsciemment, je suppose qu'il y a tout un tas de choses. C'est un exercice cathartique, je suppose. Mais puis bon, c'est plutôt amusant, c'est plutôt agréable d'écrire.
Dans vos précédents livres, vous racontiez le travail de la police, la traque des criminels. Dans La fosse aux âmes, vous changez de perspective, vous le disiez. Au cœur de l'intrigue, il y a un homme, Fabrice, un homme ordinaire, un lambda. Il bosse dans une petite boîte de pub. Il se retrouve suspect dans la disparition d'une policière. On ne va pas en dire plus. Quelques semaines après avoir échappé donc à un attentat terroriste, La fosse aux âmes, c'est d'abord l'histoire d'une chute qui semble sans fin.
Ah oui, c'est une machine à laver émotionnelle, c'est voulu. Moi, en premier lieu, ce qui m'intéressait, comme je vous le disais, c'était ce sujet de la résilience. J'ai rencontré, par le biais de mon travail, beaucoup de victimes d'attentats de tout type et à toute époque, en France et à l'étranger. Et ce qui revient, c'est ce syndrome post-traumatique que les médecins illustrent très bien avec des critères qui reviennent systématiquement, la culpabilité, une survigilance et puis un poids très très lourd à porter. C'est quelque chose qui m'a intéressé. Et alors, bon, pour mettre le personnage dans un état de stress post-traumatique, il fallait à l'évidence qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, quoi. Donc, j'ai posé le débat avec le début de ce livre, avec un attentat qui, encore une fois, n'est pas le corps du roman. Ensuite, ça m'a intéressé de voir, d'une part, comment quelqu'un pouvait se relever d'un truc pareil. Et puis, il lui arrive encore d'autres choses. Donc, j'ai essayé de le pousser au maximum, essayer de pousser quelqu'un de lambda au maximum, voir jusqu'où il peut aller, en l'occurrence pour la femme qu'il aime, pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, même en surprenant?
Le monde de Fabrice va s'écrouler du jour au lendemain. Il va vivre avec cette culpabilité dont vous parliez, la culpabilité du survivant. Il y a un mot qui revient souvent, qui décrit Fabrice. Fabrice est un lâche. Moi, je le trouve très courageux.
Non, mais je retranscris ce qu'il pense de lui. Lui, il se voit comme un lâche parce qu'il est sorti vivant de cette épreuve. Et comme il a le sentiment d'avoir abandonné quelqu'un qui est mort derrière lui... Enfin, qui est mort dans ses bras, en l'occurrence, c'est cette culpabilité qui le ronge. Donc, ça l'amène à se voir comme un lâche. Mais en définitive, je suis comme vous, je trouve qu'il n'est pas si lâche que ça.
C'est un livre sur la résilience, sur la chute et la renaissance. C'est aussi une façon de rappeler l'importance de l'accueil des victimes, notamment dans les commissariats ou les gendarmeries.
Oh, c'était pas le propos le plus important, mais il y a quelques passages là-dessus, oui, mais plus pour mettre ce personnage dans ses bottes. Victime, en fait, face à l'administration, qui est un peu froide parfois, hein, et qui est chahuté aussi, parce que ce sont des événements qu'elle n'anticipe pas toujours ou parfois mal. Donc, il est face à ça, il est face à sa belle famille, il est face à tout un tas de choses qui le renvoient systématiquement dans son esprit au fait qu'il s'en est tiré et qu'il est un petit peu coupable de ça.
Le stress post-traumatique, c'est encore trop souvent oublié en France ?
Bah, il me semble que récemment, ça a été vraiment pris en compte. Hein. Mais oui, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui avait été vraiment intégré. Et quelque chose de très complexe, très pernicieux. Moi, j'ai rencontré des Américains, par exemple, qui ont été victimes du 11 septembre. Et qui me disait que parfois, quelqu'un qui allait bien, 10 ans après, 15 ans après, sur des anniversaires, se faisait rattraper, faucher par ce stress qui est violent hein, lorsqu'il vous en prend. Hein.
Ça, c'est quelque chose vraiment qui vous a marqué dans les discussions que vous aviez eues avec ces personnes ?
Avec certains otages, oui. Oui, avec, ou des personnes, je vous dis, à l'étranger. Hein. Alors, c'est déconcentrique. Hein. Ce sont soit des victimes stricto sensu, ou des familles de victimes, ou des intervenants aussi, parfois. Voilà, c'est très violent.
C'est vrai que dans le livre, il n'y a pas que la victime, Fabrice, il y a aussi... La famille, celle qui était absente au moment du drame, vous aviez aussi envie de rendre compte de cette douleur, de ce manque qui s'installe de ces victimes par ricochet ?
Oui, c'était intéressant de dépeindre ça. Et puis son environnement. Mais en définitive, c'est aussi, je ne sais pas si vous vouliez l'aborder après, mais c'est aussi une histoire d'amour.
J'allais y venir parce que c'est même au cœur une histoire d'amour qui finit, une histoire d'amour qui commence et au milieu, effectivement, cet événement tragique dans un cinéma parisien. On va y revenir, mais... Je voudrais poursuivre. Moi, j'ai une image en tête. 6 ans après les attentats du 13 novembre, c'est encore très fort. C'est celle de... On voit un policier en tenue sur une photo qui pleure sur l'épaule d'un collègue. On est préparé à ces moments quand on est confronté à ces instants de terreur ?
Mais qui que ce soit, quel que soit le métier, on n'est jamais préparé à ça. Moi, j'ai déjà conversé avec des militaires qui étaient partis en OPEX, qui avaient vu des choses très dures à l'étranger et qui n'étaient pas toujours préparés à ça. Alors, parfois, ils sont aguerris. Ce qu'ils ont pu vivre avant leur permet de tenir un peu mieux. Mais ils ont d'ailleurs, les militaires, tout un système de prise en charge qui est très élaboré maintenant. Mais qui peut être préparé à ça ?
La fosse aux âmes, c'est l'histoire d'une chute, mais aussi d'une fuite. Fabrice est doublement victime des événements qui vont frapper sa vie, notamment amoureuse. À un moment, il va rencontrer un personnage surprenant. Elle s'appelle Lucienne. Alors, c'est le prénom de ma grand-mère, mais ça n'a rien à voir. C'est une petite mamie un peu trop curieuse.
Oui, ça m'intéressait de mettre cette femme-là, qui, on va pas spoiler l'histoire, mais qui se retrouve sur le même palier que ce personnage-là qui est en cavale et puis qui l'observe et qui l'approche, et qui est curieuse, et qui, petit à petit, réussit à l'apprivoiser. Et c'est aussi une touche d'humanité, de féminité aussi, parce qu'elle a beau être âgée, ça reste une femme. Et voilà, c'était un personnage qui était intéressant, qui amenait un peu de légèreté et de fraîcheur, je trouve, dans le roman.
Oui, pour un personnage principal qui se retrouve très vite tout seul.
Oui, par nature, oui, puisque je vais pas trop loin dans l'histoire, mais il se retrouve, malgré lui... le suspect idéal d'une enquête criminelle, donc il se retrouve seul hein, et acculé.
C'est vraiment très surprenant, très touchant aussi, j'ai trouvé. Il y a un peu de policier, il y a un peu de thriller, mais c'est aussi, on le disait tout à l'heure, un roman d'amour.
Oui, c'est une belle histoire d'amour, oui. Alors qui est très dense, c'est un désir très ardent, et puis qui ne dure pas longtemps finalement, hein, mais il est très présent. Alors c'est peut-être une manière aussi pour le héros de se décaler de ce stress post-traumatique, de ne pas le subir, de vivre autre chose à la place. Mais lorsqu'il perd cette femme, le ressac est encore pire.
Dans ce livre, on mesure aussi la honte du survivant, la difficulté de faire son deuil. Il y a beaucoup de sensibilité dans votre écriture. Votre expérience de policier vous a servi pour l'écriture de ce roman ?
Policier, non. Mon expérience personnelle, oui, mais policier, non.
Non, c'est pas rentré...
Non. Non, non. Mais à titre personnel, oui, on vit tous des choses comme ça qui nous nourrissent.
Novembre 2015, comme après l'attentat contre les dessinateurs de Charlie Hebdo, la foule applaudissait les policiers, les forces de l'ordre en général. Un moment fort de la nation réconciliée face à la barbarie. Profitez-en, c'est pas tous les jours, peut-on entendre dans cette vidéo tournée par BFM TV le 12 janvier 2015. En 2019 et en 2020, dans les cortèges des Gilets jaunes et lors de certaines manifs, on peut parfois entendre « Tout le monde déteste la police ». Christophe Molmy, comment en est-on arrivé là ?
Bah, je ne sais pas, j'essaierai peut-être de le traiter sur un prochain roman.
Mais c'est quelque chose qui vous interpelle, cette rupture qui semble s'être produite ces derniers temps ?
Bah, ce n'est pas quelque chose qui m'anime, en tout cas, lorsque j'interviens comme auteur.
Mais ça vous touche en tant qu'homme ?
En tant qu'homme, bien sûr, oui. Bien sûr, comme tout le monde, comme vous aussi, je suppose.
Et vous, alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes dit, moi, je vais être policier ?
Ah, moi, j'ai voulu être policier tout petit, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, honnêtement. C'est une vocation, ça s'appelle.
Vous parliez de passion quand on lit des polars écrits par des policiers en exercice ou non. On lit souvent cette passion, mais aussi la difficulté de ce métier. Difficulté émotionnelle, mais aussi matérielle.
Bah, ce qui est certain, là je vous rejoins, c'est que c'est une passion, bien sûr. Et ça l'est pour tous ceux qui sont policiers. Et c'est un métier qui est parfois difficile, hein, qu'il faut nécessairement faire avec passion.
C'est un roman plus personnel, La Fosse aux âmes ?
Oui, beaucoup plus. Ouais. Je vous dis, ce n'est pas un roman policier, hein. C'est un roman noir. Alors après, tout n'est pas personnel, mais je ne vous le dirai pas. C'est comme toujours, on mélange tout ça. Mais oui, c'est un roman beaucoup plus intime.
Vous continuez d'écrire en ce moment ?
Ah, tout de suite, non. Non. Je lui remettrai sûrement, mais pas immédiatement.
Et pas d'autres idées en tête pour l'instant ? Vous laissez reposer ?
Bon, ça germe, mais c'est pas suffisamment clair pour que je commence à écrire.
Vous lisez vous-même des romans policiers, j'imagine ?
Ah oui. Quand j'ai le temps de lire, oui. J'ai plus de temps, enfin je me donne plus de temps pour écrire que pour lire en général. Donc je lis peu, j'en lis surtout pendant les vacances, mais je lis quelques romans policiers. Oui.
Vous avez un maître en la matière, quelqu'un qui...
Pas un maître, mais j'essaie d'être corporate et puis de lire les romans de camarades comme Souvira, comme Daniel Thierry, voilà, comme Norek, des gens qui ont été policiers et qui écrivent très bien d'ailleurs.
Christophe Molmy, vous me disiez, hein, vous passez... plus de temps à écrire qu'à lire, ou en tout cas des romans policiers. La Fosse aux âmes, ça vous a pris combien de temps ?
Eh bien, finalement, j'ai eu de la chance de profiter du confinement, du premier confinement, où j'étais au bureau ou à la maison bloqué, j'aime pas rester à rien faire, donc j'ai écrit le premier jet à ce moment-là. Parce que sinon, ça me prend plus de temps quand même. Ça me prend 2 petites années pour écrire un roman. Celui-ci, ça m'a pris la moitié de temps, une année.
Ça vient assez vite ?
Ça dépend des romans. Moi, celui-ci est venu relativement vite parce que j'avais l'idée de l'histoire en tête. Et comme il n'y a pas de chapitre à proprement dit, il n'y a qu'un seul personnage, donc ça déroule. J'ai fait le premier jet assez vite. Ouais. Ça m'a pris 3 mois, mais ça s'est sorti assez vite.
Qu'est-ce qui a déclenché l'idée, d'ailleurs, du roman ?
Souvent, et c'est le cas ici, mais je ne peux pas vous parler du chapitre, ce serait une façon de spoiler le livre, mais souvent, je commence à avoir en tête un chapitre en particulier qui m'anime, et je construis autour de ça ce qu'il y a avant et après. Voilà, et le titre aussi vient assez vite, en général. Donc, j'ai pensé à ce chapitre, le titre est venu, et puis après, j'ai construit... construit l'histoire.
La fosse aux âmes, justement, comment vous l'expliquez, ce terme ?
Là, je l'explique pas. Il y a des fois des choses qui viennent comme ça. Je trouvais le titre joli.
La fosse aux âmes de Christophe Molmy est édité par La Martinière, un roman éprouvant et passionnant. Merci également à Carole Damiani, psychologue et directrice de l'association Paris Aide aux Victimes. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de votre écoute du podcast quotidien des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.